existe trois grandes voies de développement de l'hydraulique agricole. Une voie étatique, une voie communautaire et une voie privée. Nous allons examiner ces différents modes de gestion. Lorsqu'on pense aux voies étatiques d'aménagement hydro-agricole, l'auteur de référence est certainement Wittfogel. Celui-ci a développé une théorie politique qui associe à l'expansion de l'hydraulique une forme politique très dictatoriale qu'il a appelée le despotisme oriental. Wittfogel se réfère à l'histoire longue, mais il a influencé l'ensemble des sciences sociales et économiques qui ont eu à traiter de ces grands aménagements hydro-agricoles. L'exemple de l'Égypte est souvent une des bases du travail de cette hypothèse d'une autorité hydraulique dictatoriale qui préside aux destinées de l'hydraulique paysanne. Nous avons pu démontrer dans des études antérieures que certaines interventions des gouvernements occidentaux sur l'hydraulique agricole, à l'époque coloniale ou postcoloniale, ont revêtu un caractère extrêmement autoritaire. L'exemple le plus connu est l'Office du Niger au Mali. Ceci nous a amené à introduire une notion de despotisme occidental dans le cadre hydraulique, en référence au despotisme oriental de Wittfogel. En effet, la Banque mondiale, pendant une trentaine d'années, entre 1960 et 1990, a financé pour des milliards de dollars de vastes programmes d'aménagement hydro-agricole sans aucun contrôle démocratique, ni du côté des pays donateurs, ni du côté des pays receveurs. Il est d'ailleurs très difficile de faire le bilan des investissements menés dans tous ces pays en termes de rentabilité d'investissement public. En tout cas, dans ces projets, la paysannerie a souvent été assujettie à une bureaucratie mise en place pour ce développement autoritaire, et cette paysannerie n'a jamais pu exercer pendant plusieurs années de véritables contre-pouvoirs. Par ailleurs, il est apparu au cours de ces grands investissements des phénomènes de corruption, de détournement, de malversations diverses qui ont amené finalement un arrêt relativement brutal de ces programmes. Parfois, l'une des questions clés était la situation foncière avec les problèmes d'exclusion de certains paysans des terres qui étaient aménagées. En fait, ce monde de l'irrigation, qui représente environ 250 millions d'hectares dans le monde, a connu des phases très différentes d'aménagement, des phases anciennes, des phases contemporaines, des phases modernes. On peut distinguer une bonne moitié des irrigations qui remontent à plus d'un siècle, la phase concernant l'investissement massif par la Banque mondiale ou par d'autres bailleurs au cours du XXe siècle concerne environ 100 millions d'hectares. En prenant en compte l'échelle régionale, marquée par des histoires diverses, on se rend compte qu'ils coexistent dans l'espace et éventuellement qui alternent dans le temps ces trois grandes formes de gestion de l'irrigation: l'État, la communauté, le secteur privé. Et ces trois formes sont soumises à des problématiques récurrentes et nécessitent des ajustements fréquents. Nous allons examiner et comparer ces modes de gestion en fonction de leur positionnement par rapport à la question des droits d'eau, par rapport à la question du paiement de l'eau, par rapport aux problèmes revenant régulièrement dans ces modes de gestion et aux dynamiques actuelles dans la plupart des pays du monde. La gestion administrative étatique s'est construite sur la précarité des droits des bénéficiaires et se voit régulièrement confrontée à la faillite de ses comptes. Comme la hausse des taxes est socialement et politiquement délicate et que l'État ne souhaite pas renoncer à un potentiel de production agricole important, s'engage avec plus ou moins de vigueur dans la gestion participative, encore très éloignée de la gestion communautaire. La gestion communautaire donne un statut socialement reconnu et public aux membres de la communauté sous forme de droit et fonctionne sur la base des règles de partage définies dans un passé plus ou moins ancien. Les droits représentent en quelque sorte des parts sociales d'un capital hydraulique plus ou moins bien conservé ou entretenu. Un décalage apparaît entre les droits, les règles et les pratiques des irrigants, ce qui les oblige à modifier leurs conventions. La gestion communautaire connaît également des risques économiques si ses membres optent pour la réduction maximale des charges et ne prévoient pas d'amortissement de leur capital hydraulique. Alors des charges, il est vrai que dans tous les pays, la question de la recapitalisation des infrastructures donne lieu à des tractations politiques. Dans de nombreux cas, les organisations locales d'irrigants entretiennent un capital de relations utiles pour recevoir des subventions et parer aux incidents. La gestion industrielle et privée rejette la notion de droit d'eau individuels ou collectifs dans la zone où elle mène ses opérations de collecte, de stockage et de distribution. En général, elle se situe néanmoins dans un système de concession publique avec un droit d'eau, mais l'entreprise considère ensuite que cette eau devient un facteur de production soumis à un contrat avec un tarif de consommation normalement librement consenti. Cette gestion connaît des risques d'exclusion de certaines catégories sociales qui finissent par renoncer à l'irrigation. Selon la conjoncture économique, elle peut connaître de graves crises financières par défaut de souscription et de consommation. Cette gestion dépend aussi des politiques publiques qui pratiquent des subventions aux équipements et d'autres aides plus ou moins directes à travers les études. Nous constatons le plus souvent sur différents terrains dans le monde que ces formes effectivement cohabitent, mais sont très difficilement en relation. Leur articulation pose d'énormes problèmes. Publics, privés et communautés de base ne font pas bon ménage. Examinons un peu les différents problèmes qui se posent aux sociétés hydrauliques. Premier élément, à la suite de cet engagement extraordinaire des années 60 aux années 90, des financiers internationaux au profit d'un modèle d'État, on est donc passé à, via l'ajustement structurel au plan économique, à une sorte de nécessité de désengagement de l'État. Mais quelle est la nature de ce désengagement dans l'hydraulique agricole ?